Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je suis content d'être avec vous encore ce matin. Et c'est toujours un privilège de pouvoir visiter l'église sœur de Saint-Maur. Donc je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment très intéressant, très encourageant, très édifiant, voire très transformateur dans notre marche chrétienne. Et j'aimerais juste commencer par cette petite image. Vous avez vu qu'en France, ces derniers temps, on a à chaque fois de la pluie, parfois du soleil, parfois ça change, on ne sait plus si on est en août ou en octobre, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et il y avait cette image d'un humoriste chrétien, donc, qui s'appelle Alain Auderzé, et il fait cette image. Donc, il y a ce monsieur qui s'énerve avec cette conscience que demain, ils ont annoncé de la pluie. Oh là là, ils annoncent de la pluie demain. Et effectivement, le lendemain, il est énervé, il est profondément déçu parce qu'effectivement, il est dans une journée profondément pluvieuse. Et qu'est-ce qui se passe le surlendemain? Quel sale temps on a eu hier! Et pourtant, ce jour-là, si on regarde bien, chaque jour, le premier jour, il y avait du soleil, il se plaignait de ce qui allait se passer demain. Le jour où il y a eu la pluie, il se plaignait de ce qui se passait aujourd'hui. Et le lendemain, il se plaignait de ce qui s'était passé hier. Et j'espère que nous ne sommes pas comme ça. Mais voilà, notre cœur parfois a tendance à voir ce qui ne va pas, se concentrer sur ce qui ne va pas et ne pas voir ce qui va autour de nous. Et justement, j'aimerais vous parler de la reconnaissance. La reconnaissance qui est vraiment un sujet central dans la parole de Dieu. Savoir dire merci, merci au Seigneur. Et ça fait partie même du fondement même de ce qu'est la foi chrétienne. De nombreux textes l'abordent. Et je vous propose de prendre Philippiens chapitre 4 et on va lire ensemble les versets 4 à 13. Et l'épître aux Philippiens, elle est très interpellante. Certains l'ont même titré l'épître de la joie, alors que notre ami Paul, qui est l'auteur de cette lettre, il est en prison à ce moment-là et il va faire une démonstration magnifique de pourquoi nous pouvons être en joie. Et je vous propose donc de lire ensemble ce passage de Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 13. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez encore enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Amen. Je vais encore prier les amis. Merci Jésus encore pour cette parole que nous pouvons étudier, que nous pouvons méditer pour pouvoir nous laisser interpeller, pour pouvoir nous laisser enseigner par toi, pour pouvoir nous laisser encourager. Et nous comptons sur toi pour que tu transformes justement nos cœurs, tu interpelles nos cœurs pour que nous puissions faire partie de celles et ceux qui savent te dire merci, celles et ceux qui savent être reconnaissants envers tout ce que tu nous accordes et que nous sachions te glorifier dans nos vies par nos paroles et par notre cœur et nos attitudes. Amen. La puissance transformatrice de la reconnaissance. Je vous propose de regarder quelques vérités à travers ce passage qui est vraiment très très riche. On pourrait s'arrêter sur pas mal de choses, mais dans la demi-heure que nous avons, j'aimerais nous arrêter sur quelques versets clés et nous arrêter déjà sur ce premier verset 4 où nous voyons que le Christ veut que nous réjouissions en lui. Ensuite, on regardera ensemble que la reconnaissance, il y a une exhortation à pratiquer cette discipline. On va essayer d'en tirer cela à travers les versets 5 à 8. Et enfin, on va voir Paul qui nous encourage dans tous les domaines de notre vie, en particulier dans ce domaine, de nous inspirer des bons modèles. Et résumé que je ferai de cette interpellation de ce matin, de cette exhortation de ce matin, c'est réjouissons-nous toujours de tout ce que Christ est pour nous, alors nous serons transformés. Voilà un petit peu notre parcours pour ce matin. Ce verset, le premier verset, le verset 4, il est vraiment interpellant. Et je vous propose vraiment de le connaître par cœur. Il est vraiment interpellant. Philippiens 4, 4. Et j'ai eu l'occasion déjà de le dire plusieurs fois dans mes prédications, mais à Madagascar, donc je suis d'origine malgache, eh bien, nous aimons dire que c'est le 4x4 de la vie chrétienne. Le 4x4, vous savez, tous ces SUV, ces gros véhicules qui arrivent à avoir leurs 4 roues, qui arrivent à monter des montagnes. Eh bien, face aux montagnes de la vie, face aux difficultés que tu traverses, eh bien, réjouis-toi toujours de ce que le Seigneur est pour toi. Et Paul nous le répète. Et on a vraiment cette notion de comprendre qu'en fait, puisque c'est un commandement, parce que vous voyez, il y a l'impératif, réjouissez-vous toujours de ce que le Seigneur est pour vous. Et ce n'est pas la première fois que Paul va le dire ici, puisque on va le voir au chapitre 3, le verset 1, si vous regardez. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. » Et les versets précédents, le chapitre précédent aussi, au chapitre 2, il va dire au verset 18 « Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. » On voit une exhortation forte de l'apôtre Paul, et finalement du Seigneur, à se réjouir. Et c'est pour ça que dans cette première partie, j'aimerais que nous puissions nous rappeler et comprendre que Dieu veut que nous nous réjouissions. Que c'est vraiment quelque chose que Dieu aime et veut voir dans son peuple, dans ses enfants. Parfois, certaines personnes ont une vision un peu éloignée de Dieu. Bon, Dieu, oui, plus ou moins, il se soucie plus ou moins de moi. Parfois, je peux le prier. Il y a cette distance. Et finalement, Dieu est un Dieu lointain. Dieu est un Dieu qui ne se soucie pas vraiment. Et ils n'ont pas conscience qu'en fait, Dieu se soucie de toi, mais aussi de ta joie. Il se soucie que ton cœur puisse être réjoui. D'autres personnes, peut-être, ont été éduquées, élevées dans cette vision d'un Dieu strict, d'un Dieu qui, chaque faux mouvement que tu fais, il le voit et il te sanctionne. Et dans cette vision, il voit un Dieu sévère, un Dieu certes puissant, mais sévère, compliqué. Et il n'arrive pas à comprendre que Dieu est ce Dieu qui veut que nous puissions nous réjouir. Jésus-Christ lui-même a dit quelque chose dans l'évangile de Jean. Il a dit, je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus-Christ lui-même souhaite que nous puissions nous réjouir. Dans Jean chapitre 15, il enseigne que le peuple de Dieu, que les chrétiens doivent demeurer en lui, doivent s'attacher à lui, doivent garder sa parole, doivent appliquer sa parole. Et il conclut cette petite section en disant, je vous ai dit ces choses, toutes ces choses-là que je viens de vous dire, tous ces enseignements que je viens de vous enseigner, toutes ces paroles que je viens de vous dire, eh bien, je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est interpellant quand même, hein, de dire que finalement, les commandements que Dieu nous donne, finalement, toutes ces choses que Dieu nous enseigne, finalement, quand il nous dit d'obéir, quand il nous dit de nous éloigner du mal, quand il nous dit de prendre du temps dans la prière, d'aimer notre prochain, eh bien, toutes ces choses-là, il sait que c'est pour notre bien. Est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce que nos enfants ont conscience de cela? Parfois, nos enfants ont l'impression qu'il y a beaucoup d'obligations et il faut faire ça pour être un bon enfant, être dans le bon cadre. Mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que nous avons compris que toutes ces choses-là, c'est pour notre joie. Dieu se soucie de ce qui est bon pour nous. Quand il a créé lui-même la terre, il a dit cela était bon. Et quand il a créé l'homme, il a dit cela était très bon. Donc Dieu sait ce qui est bon pour nous et il veut ce qui est bon pour nous. Donc vraiment ça, c'est la première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est notre Dieu se réjouit de ce que nous réjouissons. Et c'est un encouragement de notre Seigneur. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où je ne l'ai pas, je ne vais pas juste se dire, bon, bah, de toute façon, voilà, je suis toujours triste ou je me plains souvent, c'est la réalité. Eh bien, sachons qu'on n'est pas forcément dans ce que Dieu veut. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que Dieu, il veut que nous puissions marcher dans ce chemin. Donc, si on n'y marche pas, c'est que nous sommes pas dans la direction que le Seigneur veut. Paul le répète et le répète. Je vous le répète. Recevez-le. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager dans ce sens-là. Réjouissons-nous toujours, toujours, hein, à chaque moment, à chaque circonstance, à chaque instant, de ce que le Seigneur est pour vous. Il le redira aussi en 1 Thessaloniciens, où il dira que notre reconnaissance, c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions être reconnaissants, c'est pratiquer la volonté de Dieu. Par contre, évidemment, la reconnaissance dans le Seigneur, notre réjouissance dans notre Seigneur, eh bien, ce n'est pas n'importe comment, c'est en lui. Ce n'est pas juste dire « Ah Seigneur, je te remercie parce que ce collègue qui m'embêtait toujours, il a été enfin viré, gloire à Dieu. Il s'est fait casser, voilà. » Non, ce n'est pas ce genre de réjouissance, hein, d'accord? On peut remercier le Seigneur qu'on ne soit plus oppressé, mais que le malheur arrive sur l'autre, on ne veut pas se réjouir. « Seigneur, je te remercie parce que je n'ai pas déclaré mes impôts et ils n'ont rien vu du tout. » Non, 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 on ne veut pas être dans ce genre de réjouissance. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La version Summer dira « Réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. » C'est intéressant, c'est une petite, un petit regard, un petit appui qu'il donne qui permet aussi de comprendre le type de reconnaissance que nous voulons avoir. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons des joies, des reconnaissances temporaires. Des choses qui aujourd'hui viennent et demain partent. Il y a des choses qu'on doit remercier. Mais Dieu veut que nous ayons une joie solide, bien ancrée, qui permet de traverser les circonstances compliquées, difficiles. Encore une fois, l'apôtre Paul, là, il est non seulement en prison, mais sa vie était potentiellement en jeu. On le voit en Philippiens chapitre 1, où il dit « Je suis entre deux tiraillements. Peut-être que je vais partir, ça veut dire peut-être que je vais être tué, hein, ou peut-être que je vais rester, peut-être qu'on va me faire faveur. » Donc je suis entre deux tiraillements, mais finalement moi je sais que si je me fais tuer, je sais que je vais avec le Seigneur, donc j'ai de la joie. Et donc on voit que l'apôtre Paul, il y a peut-être une condamnation qui lui arrive, mais malgré ces circonstances-là, on voit un homme qui arrive à se dire « Réjouissez-vous, réjouissons-nous !» Et les Philippiens le savent, que l'apôtre Paul, c'est la joie, c'était le fondement aussi de sa marche avec son Dieu. Parce que, pour ceux qui le savent, dans les chapitres, dans les actes, lorsque Paul est arrivé à Philippe, eh bien, il s'est vite fait mettre en prison. Et après avoir été molesté, après avoir été battu, et il était blessé avec Silas. Et il y a un épisode célèbre où Paul et Silas, au milieu de la prison, au fin fond de la prison, au fin fond du trou, commencent à chanter des cantiques. Waouh ! Chanter et célébrer les louanges du Seigneur. Et Dieu a glorifié son nom après, puisqu'il a fait trembler les portes de la prison, et les verrous sont tombés, les chaînes sont tombées, et Paul et Silas ont été libérés par le Seigneur. Il y a ici une joie que Dieu veut que nous puissions comprendre, une joie solide. Et j'aimerais vraiment nous encourager à la pratiquer régulièrement. Et ce que je vous propose justement, c'est un petit exercice maintenant, c'est de nous dire... Si je devais vous dire, mais qu'est-ce qu'est le Seigneur pour vous? Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il pour vous? Quelles sont les caractéristiques qui sont ancrées dans votre cœur, qui vous réjouissent? Réfléchissez un petit peu. Tournez-vous maintenant vers votre Dieu et réfléchissez à cela. Seigneur, qu'est-ce que tu es pour moi? Et je vous propose maintenant cet exercice, c'est de partager cela avec votre voisin. ça va l'encourager, ça vous permettra aussi de célébrer votre Seigneur. Si vous vous êtes pas vu ou si vous voilà, votre voisin, votre voisine, n'hésitez pas à vous tourner gauche-droite et dire voilà, pour moi, le Seigneur, c'est ça et ça. OK ? Allez, petit travail, on se tourne à notre voisin. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à vous dire votre prénom, vous dire bonjour, hein, si nécessaire. Et voilà, qu'est-ce qu'il est le Seigneur pour vous ? Qu'est-ce qu'il est le Seigneur ? Juste quelques secondes, hein, pas très longtemps, 30 secondes. Ok, allez, alors, on va dire un chacun, je vais désigner comme ça. Alors Francis, dis-nous, qu'est-ce qu'est le Seigneur pour toi ? Un roc, amen. Est-ce que cette vérité que Francis nous dit, elle est vraie à tout moment ? Dieu est un roc pour nous. Toutes les vérités qu'on va dire, vous allez voir, c'est des choses qui sont toujours vraies. Ça veut dire que même si Francis perdait quoi que ce soit, il pourrait dire « Seigneur, tu es mon roc », n'est-ce pas ? Quelles que soient les circonstances que Francis traverse, tu pourras dire « Seigneur, tu es mon roc, tu es mon solide rocher ». Merci. Michael ? Mon sauveur, quoi qu'il arrive, je suis entre les mains du Seigneur. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est mort pour moi et il m'a donné accès au Père. Quoi qu'il arrive, il m'a désormais acquis un accès au trône de grâce. Merci Seigneur. D'autres personnes ? Allez, Laurent. Le Laurent que je connais. Ton souverain bien. Merci Jésus, merci Seigneur. Vous avez tout pleinement en Christ. Il est celui en qui j'ai tout. Il est celui que j'ai et à qui j'appartiens aussi. Merci. Merci Laurent. Une autre personne ? D'autres personnes ? Est-ce qu'une femme voudrait ? Oui, vas-y. Mon ancre et ma voile. Solide, solide. C'est celui sur qui je peux m'appuyer, celui qui me dirige, qui me permet de ne pas partir trop loin, mais c'est aussi celui qui guide mes pas et qui me conduit. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main derrière. Oui ? La vérité. Waouh, merci Jésus. Seigneur, tu es toujours la vérité. Dans le monde de confusion que nous sommes, dans un espace où on ne sait plus qui dit vrai, etc. Jésus, c'est toi la vérité. Je peux me tourner toujours vers toi. Quoi qu'il arrive, tu es là. Amen. Allez, une dernière personne. Oui ? La source de ma joie. Seigneur, quoi que je traverse, tu peux remplir mon cœur de joie. Tu es celui qui me réjouit. Merci, Seigneur. Et on pourrait continuer comme ça, n'est-ce pas, hein ? Eh bien, c'est vraiment un exercice que je nous encourage à faire. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, quelles que soient les circonstances, les amis. C'est pour ça que Paul peut dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait dans sa prière, Seigneur, bon voilà, je fais cet accident, mais je te remercie. Et je me suis dit, il faut faire attention, il ne faut pas remercier pour l'accident. Il faut remercier que dans l'accident, le Seigneur était présent, par exemple, qu'il m'a protégé ou qu'il m'a permis de m'en sortir. Donc, on ne va pas remercier pour le malheur qui nous arrive, parce qu'il y a vraiment des vrais malheurs qui nous arrivent. Il y a des choses difficiles, compliquées, pas faciles à recevoir. Et elles nous atteignent et elles nous attristent, et c'est normal. Jésus lui-même, à un moment, a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Donc, le temps de tristesse est normal. Mais c'est quelle réaction je vais avoir face à ce temps de tristesse ? Je veux tourner les regards vers mon Seigneur et dire, Seigneur, tu es ceci. Et gardez ce que vous avez dit tout à l'heure, dans votre silence, dans votre cœur, ou que vous avez partagé avec votre frère, votre sœur. Rappelez-vous de cela. Évidemment, toutes ces choses-là, nous allons les avoir dans la parole de Dieu. Moi, j'aime beaucoup le psaume 46. Quelles que soient les circonstances compliquées que je traverse, on a reçu récemment des mauvaises nouvelles où j'ai perdu deux cousins en l'espace de quelques mois, deux frères, c'était deux frères. Et avec la famille, quand on traversait cette période difficile, on s'est lu ensemble le psaume 46. Seigneur, tu es notre roc, tu es notre rocher, notre forteresse. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui disait, c'est mon Père céleste. Et dans le Seigneur et en Jésus, on a aussi toutes ces choses-là. On a aussi notre communion avec le Père. Nous recevons aussi le pardon. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Beaucoup de religions, beaucoup de pratiques religieuses sont loin de comprendre qu'ils peuvent recevoir le pardon gratuit. Et nous avons cette grâce immense, les amis. En Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Et ça ne changera jamais. En Jésus-Christ, vous avez reçu le sacrifice ultime pour votre vie. Il est mort pour nous, etc., etc. Donc, listons ces choses-là qui sont solides, qui ne bougent pas, qui perdurent éternellement. Et réjouissons-nous de tout cela. Réjouissons-nous dans notre Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais j'aimerais vraiment que tu puisses te rappeler de ce qui peut réjouir ton cœur malgré les circonstances compliquées. Et nous pouvons aussi être un témoin auprès de nos bien-aimés frères et sœurs en Christ qui peut-être vont beaucoup se plaindre de leurs circonstances, de leurs situations, de leurs difficultés et qu'on puisse leur dire, écoute, mais qu'est-ce qu'est le Seigneur pour toi? Qu'est-ce qu'est le Seigneur pour toi? Et dans tout cela, et c'est la finalité de toute chose finalement, en apprenant à trouver ma joie dans le Seigneur, eh bien le Seigneur est glorifié, n'est-ce pas? Le Seigneur est glorifié dans ma vie. Et le Seigneur est aussi glorifié autour de nous. Paul encouragera les Philippiens à ne pas être dans le murmure et dans la plainte. En Philippiens chapitre 2, il leur dira, je vais vous le lire, c'est au verset 14, « Faites tout sans murmure ni contestation. » Parce qu'évidemment, le contraire de la reconnaissance, c'est le murmure. D'avoir se plaindre de ceci, de cela, de ce qui se passe, etc. etc. Et il dit, dans quel objectif il nous encourage à abandonner le murmure afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Nos plaintes et nos murmures n'aident pas notre témoignage. Mais notre reconnaissance et notre attitude qui agit sans plainte et sans murmure, la parole de Dieu nous dit ici, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Bien sûr que si vous rencontrez des non-croyants et qu'ils vous entendent vous plaindre de tout, de Macron, de la météo, etc., bon, ils se disent, voilà, quelle est la joie qui sort de ce cœur. Mais s'ils voient quelqu'un qui témoigne de la grâce du Seigneur, qui a cette joie, parce qu'il sait où il trouve sa joie, eh bien, ça interpelle. Donc, c'est un encouragement aussi, même dans notre volonté d'être des témoins. Continuons à être des personnes qui savent nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est pour ça que je veux vraiment croire que Paul sait que notre cœur n'est pas toujours dans la reconnaissance. C'est pour ça qu'il va dire, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète. Et il va nous donner justement un encouragement à la pratique d'une discipline. Je le vois ici dans le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. En toute circonstance, en toute chose, il nous dit, tu as quelque chose qui vient de t'arriver. Tu as une grosse tuile, tu as des circonstances compliquées, tu as une relation difficile, que ce soit avec un frère, avec un parent, avec des enfants. Eh bien, il dit, ne t'inquiète pas. Tu as peut-être même perdu ton travail, ou tu as des finances, des dépenses qui arrivent, qui sont compliquées, qui ne sont pas prévues. Eh bien, l'encouragement du Seigneur, il est interpellant, hein. Ne vous inquiétez de rien. Alors, je me rappelle que le jour où je traversais une période très compliquée dans mon ancien travail, où tous les jours, j'avais ce client qui était difficile, qui même était quelqu'un qui plutôt parlait mal de moi autour de lui, un client professionnel. Hein. Eh bien, quand j'ai lu ce verset, ne vous inquiétez de rien, dans mon cœur, c'était, c'est facile à dire. C'est facile à dire, ne vous inquiétez de rien. C'est pas évident, hein, quant à ceci qui se passe, là, qui arrive. Voilà. Et donc, j'ai essayé de dire, bon, Seigneur, je m'inquiète, hein, c'est ma réalité, là, voilà. Et ensuite, je relis ce texte. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Par des prières, toute inquiétude, ne la transformez pas en plainte. Transformez-la en prière. Ça vous va, ça? Toute inquiétude, une inquiétude, je la transforme en prière. j'en fais un espace de prière. Et c'est pour ça que j'encourage les frères et sœurs à avoir des amis proches avec qui vous pouvez passer du temps dans la prière, vous appeler rapidement en disant « Écoute, voilà, j'ai cette situation, est-ce que tu veux bien prier avec moi ? C'est lourd dans mon cœur. » On passe un coup de fil à un frère, à une sœur, à un ami, à un proche pour pouvoir justement se décharger sur notre Seigneur. Le deuxième mot ici, supplication, il est très interpellant. En fait, c'est cette notion de oser pleurer devant Dieu, oser crier à Dieu, oser vraiment ouvrir son cœur. Et on le voit dans les psaumes, n'est-ce pas ? Où les psalmistes, et en particulier David, savent crier à Dieu leur douleur. « Oh Seigneur, tu vois que je baigne dans mes larmes. » Voilà, David, hein, dans ce côté très imagé, il aime utiliser des images fortes. « Je baigne dans mes larmes, je suis vide, etc. etc. » Eh bien, ça fait partie de ce que Dieu encourage le chrétien à faire et à être, savoir ouvrir son cœur du plus profond de votre être. N'hésitez pas à pleurer devant votre Seigneur. Jésus lui-même l'a fait. Il s'est mis à genoux, il a transpiré des grumeaux de sang et il a crié à son Dieu. Il était à terre. Il y a dû avoir des anges qui sont venus pour l'encourager, tellement il était dans l'agonie, dans la détresse. Et donc, si Jésus lui-même a osé se mettre à genoux, à crier à son Père, eh bien, prenons son chemin aussi dans les circonstances que nous traversons. Et encourageons nos bien-aimés frères et sœurs, nos proches, nos amis à faire de même. Mais un troisième élément qui, pour moi, a souvent été manqué dans ma pratique de la prière, c'est que dans ce temps de prière, qui est déjà un bon temps, qui est déjà quelque chose de bon, eh bien, Paul nous encourage à le faire dans une attitude de reconnaissance. Vous avez vu ça ? Oui, mais tu as vu mes circonstances, quand même, elles sont compliquées. Je traverse une situation difficile, un enfant malade, une perte d'emploi où je n'arrive plus à rejoindre les deux bouts, une santé fragile où je ne sais même pas si je vais réussir à calmer cette douleur. Et là, la parole de Dieu nous dit « dans une attitude de reconnaissance ». Et là, on reconnecte avec le « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et Paul, est-ce que tu comprends ce que je traverse ? Paul comprend ce que l'on traverse. Paul sait que la vie n'est pas toujours facile et que parfois on aimerait que se plaindre et se concentrer sur tout ce qui ne va pas parce que c'est tellement douloureux. Et Jésus aussi comprend. Et c'est pour ça qu'en Hébreux chapitre 4, les amis, il y a ce texte qui nous dit ceci au verset 15. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point. » Mise à l'épreuve en tout point. Tout comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Merci Seigneur. Il y a vraiment ce rappel que Jésus-Christ a traversé toutes les épreuves sur cette terre. Il a été tenté en tout point. Il a vécu tout type de souffrance. Souffrance physique, il sait ce que c'est. Souffrance relationnelle, il a été trahi, on l'a renié. Souffrance psychologique, à un moment on a senti qu'il était. Souffrance spirituelle, il a vécu cette distance avec son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Notre Seigneur Jésus a vécu toutes ces souffrances. Et donc il peut nous accueillir dans ces moments difficiles et dire, approche-toi avec assurance. Et oui, dans ces moments-là, tu peux avoir une attitude de reconnaissance. Et ce que je vois qui est assez interpellant, les amis, c'est que, en fait, c'est souvent ça qui va nous aider à prendre le bon recul sur nos circonstances. C'est souvent ça qui va nous aider à atteindre les conséquences que Dieu promet. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Plusieurs fois, dans des accompagnements pastoraux où des personnes vivaient des moments difficiles, je propose ce temps, en fonction des circonstances. Je dis, écoute, viens, je te propose déjà qu'on puisse remercier le Seigneur pour des choses qu'il a fait dans ta vie. La personne arrive souvent chargée, parce qu'elle vient de vivre quelque chose de difficile, de compliqué, d'intérieur.
Et là, je lui propose qu'on ait justement ce temps, après avoir écouté la personne, ce temps où on va justement se poser devant notre Dieu et le remercier pour des choses. Et là, je lui propose, qu'est-ce que tu as reçu récemment du Seigneur? Ou qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Où tu peux le remercier. Et c'est assez puissant de voir comment le cœur chargé à la base, le cœur qui voit ce qui l'écrase, commence à s'égayer, commence à se relever, commence à avoir à nouveau de la lumière sur le visage. Parce que la personne commence à regarder à ce que Dieu a fait, et non plus à ce qu'elle est en train de subir, et commence à proclamer justement les bonnes œuvres du Seigneur. Et ensuite, quand on passe au temps où on va remercier le Seigneur, la prière du début n'est plus la même. Parce que la personne commence à voir qu'en fait, Dieu continue à agir. Et c'est exactement ce que j'ai vécu dans cette période difficile dans mon travail où pendant des jours et des jours où je ne dormais pas à cause de ce qui se passait au travail et où j'ai vu que j'avais raté ce petit mot dans une attitude de reconnaissance et où je me suis obligé à lister tout ce que Dieu avait fait dans ma vie et tout ce qu'il faisait encore dans ma vie. Et franchement, les amis, la liste était longue. La liste était longue. Et donc, je nous encourage, les amis, à continuer encore et toujours à rappeler dans votre vie tout ce que le Seigneur a fait pour vous, à pratiquer cela de façon régulière, à être moins des hommes et des femmes qui nous plaignons, mais plus des hommes et des femmes qui nous réjouissons, parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Et il nous dit ceci, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on a une paix qui vient. On a la paix de Dieu. Mais ce n'est pas une paix que nous avons produite par nous-mêmes. C'est une paix qui vient de Dieu lui-même. En fait, Dieu vous honore d'avoir choisi de le louer plutôt que de vous plaindre. Dieu vous honore d'avoir choisi de regarder à lui et à sa beauté, à sa grandeur, plutôt que d'avoir regardé à vos montagnes et vos difficultés et ce que l'autre a fait. Et il saisit votre cœur et il y met sa paix. Donc merci au Seigneur. Et Paul nous encourage comment faire justement cela. Et il nous dit ici au verset 8, « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Pour pouvoir justement aider mon cœur à être dans la reconnaissance, il faut que je me rappelle de qui est Dieu. Tout ce que vous avez pu dire, vous l'avez vécu, mais vous le saviez aussi parce que l'enseignement de la parole vous l'avait dit. Donc vous vous êtes rappelé de cela. Eh bien, continuons à nous remplir de ce que dit la parole de Dieu sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait. Et faisons attention avec quoi nous remplissons nos pensées et nos regards. Alain Oderzé, ce même auteur chrétien, j'ai essayé de retrouver cette image, je ne l'ai pas retrouvée, mais je voulais quand même vous en parler. On voit un homme qui est en train de marcher sur une poutre, tout heureux, et avec une fleur dans les dents. Et il y a son ami qui est à côté et qui dit « Mais comment tu peux être heureux vu tout ce qui se passe dans le monde ?» Et là, cet ami lui dit « Écoute, je n'écoute pas les informations, les nouvelles. je regarde pas les nouvelles. » Et c'est vrai que le journal de 20h et toutes ces choses-là, bon, on veut rester connecté au monde, on veut voir ce qui se passe, mais ça peut nous charger. Hein. Encore un viol ici, encore 58 meurtres là, encore 250 personnes qui ont été tuées. Et il faut savoir filtrer tout ce que nous recevons de ce monde. Je ne parle même pas des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etc., etc. Toutes ces choses-là remplissent notre cœur et vont impacter aussi notre être intérieur et vont impacter notre capacité de louer ou pas. Et donc, filtrer cela, eh bien, c'est aussi quelque chose d'important. Et donc, c'est pour ça que je nous encourage vraiment à pratiquer, à prendre du temps dans la louange, dans l'écouter des messages, prendre du temps dans la prière, dans s'encourager avec des frères et sœurs et ne pas se concentrer sur ces choses de ce monde. Évidemment, on en a besoin pour différentes situations, mais que vraiment ce qui remplisse mon cœur et mes pensées soient les choses du Seigneur. Et je termine rapidement avec s'inspirer des bons modèles. On voit Paul qui encourage les Philippiens, à s'inspirer de son modèle. Il dit, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Inspirons-nous des personnes que nous savons être dans la reconnaissance. espions-nous des personnes que nous savons marcher à l'image de Jésus ? Et Paul, dans ce texte de Philippiens, mais bien d'autres textes, il va vraiment faire des affirmations très fortes qui devraient nous inspirer lorsqu'on regarde ce que c'est la vie chrétienne. Il va parler de son amour profond pour Christ en Philippiens chapitre 3, verset 8. « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Waouh ! Paul aime le Seigneur Jésus et rien n'est plus précieux pour lui que Christ. Il va nous parler de sa consécration, qu'il se donnait entièrement. Il va nous parler de sa joie. Il va nous parler de son attitude envers les ennemis. Quand on va regarder Paul, on va voir comment il s'est comporté. À Philippe, je vous l'avais dit, avec ce bourreau, eh bien, en prison, il a chanté, les verrous se sont libérés, mais il n'est pas tout de suite parti, parce qu'il avait à cœur, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, il avait à cœur le gardien de prison. Il avait à cœur le geôlier. Et il a témoigné au geôlier à toute sa famille. Alors que Paul avait été mis en prison, hein, le geôlier, ce n'était pas son copain à la base. Mais il a eu à cœur cet homme. Et je vois une chose qui, moi, m'aide beaucoup à retrouver ma joie, et j'aimerais nous encourager aussi là-dedans, c'est que nous pouvons prier pour les personnes avec qui nous avons des relations difficiles. Souvent, on va prier pour que la situation se libère, etc. Mais lorsqu'on va prier pour leur bien, Paul le va dire en Romains chapitre 12, priez même pour vos ennemis. Alors, à combien plus forte raison peut-être ce frère, cette sœur avec qui tu as des relations difficiles, ce papa, cette maman avec qui tu t'entends plus très bien, cet enfant avec qui c'est compliqué, ce voisin, ce collègue, etc., etc. Une des choses qui va nous aider à retrouver notre joie, c'est de chercher à les bénir et pas à les maudire. Chercher leur bien. Et ça, j'aimerais vraiment vous encourager dans cette petite proposition. Paul va dire des choses qui sont tellement formidables, les amis. Il va dire ceci, « J'ai appris à être satisfait de ma situation, le contentement. » C'est très fort. Il va aussi dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ça veut dire que toutes les circonstances que je traverse, je sais qu'en Dieu, je vais trouver les forces de pouvoir y faire face. Et les conséquences, il le dit, « Le Dieu de la paix sera avec vous. » Alors, nous voulons encore nous encourager et j'aimerais vraiment nous encourager les uns les autres à justement marcher dans les traces de Paul, mais aussi et surtout de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, qui a vécu ce moment où il a été troublé lui-même. « Mon âme est troublée, que dirais-je ? Père, éloigne-moi de cette, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il va dire un nom. « Père, glorifie ton nom. » Et une phrase va arriver, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Encourageons-nous à toujours chercher la gloire de Dieu, à toujours nous réjouir dans notre Seigneur, et Dieu s'occupera du reste. Quelques conclusions, et peut-être juste un petit élément par rapport à cette phrase, juste une petite digression sur quelque chose que je voulais quand même vous dire. Il y a un prédicateur qui est un prédicateur très connu qui s'appelle Charles Spurgeon, et qui est connu au point où on l'a dit, il est le prince des prédicateurs, tellement il était connu pour sa prédication percutante. Et il était en Angleterre et il a apporté beaucoup, il a écrit beaucoup d'ouvrages aussi qui font beaucoup du bien encore aujourd'hui à beaucoup de personnes. Il a édifié aussi, c'est un homme qui a vraiment impacté sa génération et encore aujourd'hui. Et pourtant, cet homme avait une tendance dépressive. Il avait une tendance dépressive. Et on pourrait parfois croire que la dépression, justement, est un péché parce qu'on n'arrive plus à être dans la joie. Mais je trouve que le témoignage de Charles Spurgeon est vraiment édifiant. C'est un homme qui, effectivement, avait cette tendance dépressive, avait ce terreau facile à, justement, être dans cette tristesse profonde. Et on pense que c'est, entre autres, à cause d'un événement très difficile qu'il a vécu dans sa vie, qui a fait qu'à cause de ce qu'il a vécu, il a eu un genre de stress post-traumatique. Mais pourtant, malgré cette tendance, Charles Spurgeon a été un homme qui a encouragé des milliers de personnes à trouver leur joie dans le Seigneur. Malgré cette tendance, Charles Spurgeon s'était donné cette discipline de chercher dans son Seigneur sa joie, de pratiquer cela, que même au moment où la joie n'est pas là, où tu ne ressens pas cet élan vers le Seigneur, eh bien, tourne-toi vers lui. Rappelle-toi de façon disciplinée ce que le Seigneur est pour toi, comme on l'a fait tout à l'heure. Et pratique cela, quand bien même tu es peut-être dans la dépression ou tu as été dans la dépression ou tu as peut-être ce terreau. Je voulais juste nous encourager par rapport à ça, qu'on puisse aussi être sensible à celles et ceux qui sont dans la dépression, que même un Charles Spurgeon, même un des meilleurs, a pu vivre cela, mais ce n'était pas une indication de sa santé spirituelle. Dieu peut et veut encore accompagner les personnes qui sont dans la dépression. Et même Jésus lui-même a eu son âme troublée. Mais il a dit, Seigneur, glorifie ton nom. En conclusion, les amis, soyons convaincus que Dieu veut notre bien. Pratiquons quotidiennement la reconnaissance et l'adoration. Alimentons nos pensées et nos cœurs des promesses puissantes de la parole. Inspirons-nous des bons modèles et regardons encore et toujours à Jésus. Ainsi, nous pourrons toujours nous réjouir de Christ et pour nous, et nous serons transformés. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci parce qu'il y a tellement de joie à être en toi. On l'a dit tout à l'heure, tu es notre roc, tu es notre père, tu es notre ancre, notre voile, tu es la vérité, tu es notre plus grand bien, notre souverain bien. Tu es tellement de choses, Seigneur. Et nous voulons vraiment garder nos regards fixés sur toi, Jésus. Toi, notre Sauveur, notre Seigneur. Et aide-nous à nous encourager à regarder à toi encore et toujours, quelles que soient les circonstances. Aide-nous à être de celles et ceux qui savent se réjouir en toi et non pas se plaindre. Transforme nos cœurs. Pardon pour toutes les fois où on aime se plaindre. Pardon pour toutes les fois où on aime regarder ce qui ne va pas. Pardon pour toutes les fois où on critique l'autre. Mais merci parce que tu nous encourages à regarder à toi. Fais de nous des hommes et des femmes qui sont remplis de joie, qui sont remplis de ton amour et qui déversent cet amour à travers notre témoignage autour de nous. Que beaucoup d'hommes et de femmes, Dieu Tout-Puissant, soient touchés par la joie et par l'amour qui émanent de l'Église de Saint-Maur. Que beaucoup d'hommes et de femmes, Dieu Tout-Puissant, soient touchés, soient interpellés, parce qu'ici, on glorifie Dieu et on se réjouit en lui. En ton nom. Amen.
Merci Ruben pour ce message et cette parole. Et peut-être petite annonce, je pense, qui n'est pas forcément mise dans le PowerPoint, mais il n'y aura pas de cantine après le... Pas de cantine après le culte, mais ça ne nous empêche pas de nous réjouir les uns avec les autres pour ceux qui le veulent. Je pense qu'on pourra peut-être manger ensemble pour aller chercher quelque chose. Et voilà, pour pouvoir également pratiquer ce que Ruben nous a dit, hein, que nous puissions nous réjouir ensemble en Christ, mais également peut-être prier les uns pour les autres en fonction de ce que Dieu mettra dans notre cœur. Voilà, pour info, pas de cantine, mais c'est possible de manger ensemble. Voilà. Donc dimanche prochain, donc en fait tout le mois d'août, pour information, hein, tout le mois d'août, pas de cantine. Voilà, nos bien-aimés chefs cuistots prennent du repos bien mérité. Et donc dimanche prochain, également culte à 11h, donc culte francophone, donc à la présence de notre frère Francis, à la louange Sam, encore, merci. Et à prédication, notre pasteur Philippe qui reviendra de congé. Donc encore une fois, Léo, tu posais la question tout à l'heure, date à retenir hein, dans ton agenda, et vous aussi, frères et sœurs. Donc week-end de rentrée, entre guillemets, donc week-end d'église plutôt, du coup, au vu des dates du 31 octobre au 2 novembre. Donc voilà, pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent peut-être pas, donc c'est un moment pour notre église et pour les frères et sœurs en assemblée de nous retrouver ensemble pour pouvoir partager des moments de communion différents de l'église et voilà, de pouvoir également peut-être affiner notre vision et également partager des moments de qualité ensemble. Donc voilà, mon cher Ruben, tu vas revenir encore une fois pour nous apporter la bénédiction.
Famille de Saint-Maur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour cette communauté et je te prie que tu bénisses chacune et chacun, que tu les remplisses de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, que tu fasses d'eux des hommes et des femmes qui reflètent ta reconnaissance et ta joie et que tu puisses justement, notre Dieu, que tu puisses leur donner ta joie, qu'elle soit en eux et que leur joie soit parfaite. Amen.